Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette émission de la série « Croire d'hier à demain », produite dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains. Au microphone, c'est Francine Robert en remplacement de Christine Cossette. Mon invité aujourd'hui est un ancien directeur de l'Institut et toujours professeur invité. C'est Monsieur Jean-Louis Larochelle, qui est dominicain, formé en sociologie pratique et bien sûr en théologie, et qui s'intéresse beaucoup aux questions de religion et société, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut observer dans la société au plan religieux. Il me disait que certains font l'hypothèse, non seulement pour le Québec, mais pour le monde occidental, font l'hypothèse de l'éventuelle mort de l'institution de l'Église catholique, en tout cas l'institution telle qu'on la connaît, d'ici 20 ou 30 ans. Ça me paraissait une hypothèse forte. Je dois dire aussi que c'est pas tout à fait son hypothèse, mais il va nous aider à observer les signes qui peuvent fonder une hypothèse comme celle-là, ou en tout cas qui donne à penser sérieusement quels sont ces signes, comment les comprendre, de quelle manière les lire, et est-ce qu'on peut essayer de voir venir un peu, et peut-être est-ce que nous avons des initiatives à prendre. Donc, ce sont ces sujets que Jean-Louis Larochelle va traiter avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Et bienvenue à cette émission. Jean-Louis, j'ai pris l'hypothèse la plus frappante, la plus extrême en introduction de cette émission. Mais c'est quand même le fait que ça soit formulé, déjà, ça pose question.
En fait, c'est une affirmation brutale oui. que l'on retrouve chez un bon nombre de sociologues présentement. Ils partent des tendances observées. Les tendances que l'on voit ici au Canada et plus particulièrement au Québec, au cours des 50 dernières années, oui. on a assisté à une chute très prononcée de la pratique religieuse, même si au niveau de l'appartenance, les gens disent être encore catholiques, le plus souvent, en 80% ou presque, alors que dans les manifestations concrètes d'appartenance à l'Église, ça se réduit de plus en plus. Et dans un milieu comme Montréal, par exemple, dans les communautés plutôt francophones, on dit que c'est vraiment en bas de 5% le taux de pratique religieuse. Ouais. Et à partir des tendances, donc les tendances observées, il y a des projections qui sont faites. On dit si ça continue dans le même sens, d'ici deux décennies, il y aura presque plus de communautés paroissiales en particulier. On ne se prononce pas sur d'autres formes de communautés, mais si on veut regarder le modèle traditionnel de rassemblement communautaire de catholiques, oui. on se dit que ça s'en va vers une catastrophe.
OK. Au fond, c'est un acquis pour tout le monde que ça a baissé sérieusement avec la Révolution tranquille. Ce qui est peut-être moins clair pour plein de gens, c'est que ça n'a jamais arrêté de baisser depuis la Révolution tranquille.
Non, c'est un ça? Fait. C'est un fait. Une observation que l'on fait ici, que l'on fait aussi dans d'autres pays occidentaux, il y a eu une descente régulière au cours des au moins des 40 dernières années.
D'accord. Et vous me disiez, Jean-Louis, que l'avenir peut être comme ça, ça peut être autrement, mais que c'est lié à une crise de société. Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, l'Église est en crise, mais que c'est concomitant à une crise de société qui s'enclenche ou dont on voit les signes précurseurs. On a bien entendu parler de la crise des valeurs, tout ça.
De fait, dans les discours des historiens ou encore des sociologues de la religion, quand on regarde l'avenir, oui. les projections, on dit qu'il y a l'hypothèse d'une mort progressive, suffisamment rapide, de l'Église catholique institutionnelle, telle qu'on l'a connue. Il y a l'autre hypothèse, et c'est l'hypothèse retenue par non seulement des historiens, mais des gens qui ont des convictions, sont porteurs d'espérance. Ils nous disent « l'Église a connu » à plusieurs reprises dans son histoire, des réveils religieux de grande envergure ou de moyenne envergure ou de petite envergure. Ils disent, à chaque fois qu'il y a eu réveil religieux, dans des conditions particulières, conditions de crise, la société, il y a toujours eu des gens qui ont pris des initiatives.
OK, j'ai mis l'affaire à l'envers, là, si je viens de réaliser en vous écoutant. Je croyais, comme peut-être beaucoup de gens, que la crise de l'Église était liée à une crise de la société. Et ce que vous me dites, c'est le contraire, c'est-à-dire la crise de l'Église peut évoluer vers un réveil, ce que vous appelez un réveil religieux, parce qu'il y a une crise de la société.
Mais de fait, dans l'histoire, quand on parle de réveil, autrement, de retournement assez brusque au niveau de l'histoire, oui, sur une période de 30 ans, par exemple, un retournement qui peut s'opérer, ça ne se produit que dans des situations de crise, non seulement crise de l'Église, mais crise de la société, crise globale, comme on dit,
d'accord,
qui affecte le politique, l'économique et le social. Quand on ne trouve pas cette condition, je dirais, un peu dramatique, on ne peut pas assister à un réveil religieux, même si l'Église est en piètre forme.
Oui.
Donc ça, c'est le constat de l'histoire.
OK. Donc la crise de l'ensemble de la société est un creuset possible pour un réveil religieux. Si je le disais dans des termes plus, je ne sais pas, ordinaires, est-ce qu'on pourrait dire que quand les gens sont bien repus, capables d'acheter beaucoup, ils ont moins besoin de la religion et qu'à partir du moment où l'insécurité ou l'angoisse ou des situations plus difficiles arrivent, ça relance la quête de sens et donc la quête religieuse?
C'est là une autre observation. On constate que, à mesure que, qu'on appelle dans le langage sociologique, la sécurité existentielle est prononcée, dans la même mesure, on observe depuis 50 ans que la religiosité diminue. Et ça signifierait que quand des gens, comme vous l'avez dit, sont repus, qu'ils ont la sécurité, par exemple, ils mangent tous les jours, ils sont protégés au niveau de leur santé, ils peuvent regarder l'avenir avec une certaine assurance, étant donné que l'État-providence va les protéger contre les surprises de l'existence,
oui,
à la fois eux personnellement et leur famille. Du même coup, il y a des questions qui ne font pas surface. On a l'impression que la conscience de la fragilité humaine, de la condition humaine, est beaucoup moins prononcée dans un tel contexte qu'elle ne l'est dans une société pauvre ou une société qui est ébranlée sur ses bases.
D'accord.
Soit à cause d'une crise politique ou économique.
Oui, une trop grande sécurité fait qu'on peut vivre sa petite routine, métro, boulot, dodo, sans trop être en recherche existentielle. Je comprends. Donc, ce que vous dites, c'est que s'il y a une possibilité de réveil religieux, c'est justement parce que, comme observateur qualifié en sociologie, vous constatez, avec bien d'autres, j'imagine, qu'il y a des signes avant-coureurs d'une crise dans notre société. Si vous voulez, vous pourriez d'abord nous parler de cela, et on reviendra ensuite sur la question donc de la religion et de l'Église là-dedans.
Très bien, très bien. Pour la crise de la société, ce qu'on a eu ces dernières années au Québec, il y a eu deux groupes qui se sont prononcés. D'abord, les Lucides, le groupe des Lucides,
ah oui,
avec M. Bouchard.
Les manifestes.
Ah oui, les manifestes. Et puis, la lecture aussi de la réalité faite par les Solidaires, pour un peu répondre à l'approche faite par le manifeste des Lucides.
D'accord.
Bon. Donc, pour eux, les Lucides, l'avenir est inquiétant. D'une part, en lien avec la démographie, donc une démographie qui va être déclinante à partir, on dit, dans les années 2010 et plus, et une économie aussi qui va être déclinante, à ce point que l'État québécois ne pourra plus assurer aux Québécois et Québécoises la sécurité, les services de santé, aussi d'un niveau élevé, de grande qualité au plan du système éducatif.
Oui.
Et cela, ça va constituer la base d'une crise quand même assez profonde pour le Québec. Et s'ajoute à cela une crise de sens. Autrement dit, les valeurs traditionnelles qu'on a connues, qu'on a véhiculées déjà depuis une cinquantaine d'années sont progressivement remises en question. On a assisté à un développement, on a parlé d'individualisme ou encore de subjectivisme. Ça tourne toujours davantage autour de l'individu, comme si l'individu devait faire ses choix en regard de ses intérêts, de ses aspirations, et tenir peu compte de ce qui l'entoure.
Donc, une absence de solidarité, bon, c'est pas nouveau. On dit ça hein, depuis 20-25 ans, je dirais, que le sens de la solidarité s'effrite. Bien que je signale en même temps qu'on s'émerveille encore de la quantité de personnes impliquées dans le bénévolat de toutes sortes de manières, que ce soit le sport ou tout ça. Mais, bon, ça, c'était une parenthèse, je la referme. Ce que vous dites, c'est que l'ensemble des représentations qu'on a de la société, c'est une société tournée vers chacun soucieux de son bien-être. d'abord.
C'est ça, se réaliser. Donc, se réaliser comme personne, c'est un mouvement qu'on retrouve et beaucoup manifesté dans les années 60 et par la suite. Et c'est un mouvement de réalisation de soi qui n'est possible aussi que dans une société riche.
Oui.
Une société un peu égalitaire. C'est impensable dans une société pauvre où la solidarité est fondamentale. Et on ne pense pas d'abord à la réalisation de soi, on pense à sa survie. D'abord, survie.
Oui, c'est vrai. Par contre, il me semble que vouloir se réaliser, lorsqu'on découvre que se réaliser, c'est entre autres s'engager dans des projets collectifs, communautaires, de quartier, c'est pas nécessairement antinomique vouloir se réaliser. Le problème, c'est quand ça devient une sorte d'égocentrisme.
Mm-hmm. En fait, il y a des modèles. C'est bien sûr que les gens qui ont eu la possibilité de réfléchir un peu sur le sens qu'ils veulent donner à leur vie.
Oui.
Et on voit que, au-delà de la trentaine, moi, s'ils forment, par exemple, un foyer, s'ils ont des enfants, ils se centrent là-dessus au départ. Mais dans la quarantaine, la cinquantaine, souvent, c'est le moment où les questions, on dit souvent les questions ultimes de l'existence, refont surface.
Oui.
Le sens qu'ils veulent donner à leur vie, maintenant qu'ils ont fait le plus gros, par exemple, au niveau de leur famille, au niveau de la profession aussi. Ils se sont, je dirais, affirmés, en quelque sorte, à travers leur profession. Et puis, ils voient que la vie est en train de s'écourter par l'autre bout.
Oui.
Là, ils se posent des questions. Qu'est-ce que je fais avec le reste de ma vie?
Oui.
Et aussi, qu'est-ce que ça donne que de vivre dans le contexte actuel? Est-ce que simplement la consommation de biens matériels peut me combler? Et bien souvent, il y a l'insatisfaction au plan intérieur face à cette consommation-là.
Mmh.
Et consommation aussi parfois des autres. Hein?
Oui.
On utilise les autres pour son propre profit. Donc, ça, c'est une autre réalité.
Mais oui, ça existe, malheureusement.
Ouais.
Jean-Louis Larochelle, vous nous avez parlé du manifeste publié par ceux qu'on appelle les Lucides. Bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres groupes et individus aussi, des leaders intellectuels, tout ça, qui ont publié des livres, des articles, des analyses. Mais bon, votre point de vue à vous face à un ensemble de cris qui sont, peut-être certains sont alarmistes, vous, comment vous voyez ça?
En fait, je dois dire que je repose sur des analyses. Je n'ai pas les capacités pour aller faire des analyses sur le terrain. J'emprunte à des auteurs, à des chercheurs, des résultats, puis aussi des projections. Pour une part, certains concluent que présentement, la situation, bien sûr, est inquiétante, mais non pas alarmiste, si on sait prendre les décisions qu'il faut, et assez rapidement. Si nous tardons à prendre des décisions, que ce soit, par exemple, au plan économique, que ce soit au plan des services à offrir à la population, c'est bien sûr que ça peut se dégrader plus rapidement. Mais si on sait prendre des bonnes décisions au plan politique, à ce moment-là, on va vivre une certaine crise. Et plusieurs nous disent que nous serions dans une période de pré-crise et que il y a une forme de crise qui va être inévitable, mais pas nécessairement aussi dramatique que ce que nous laissent entendre les Lucides.
Et est-ce que c'est concentré sur simplement le champ économique ou on peut déborder cette question? Je sais que pour les Lucides, c'est essentiellement une question d'économie, mais il y a autre chose?
En fait, pour les Lucides, il y a l'économie, mais aussi la démographie. On n'aura pas la main-d'œuvre qu'il va falloir.
Alors que vous, il me semble, quand vous parlez d'une crise sociale qui est peut-être en route, vous débordez vers des questions plus larges de sens, de crise de valeur ou d'individualisme.
Parce qu'on y déborde du seul fait que tout se tient. Si, au plan économique, il y a vraiment une descente, ça signifie donc que le système d'État-providence, tel que nous connaissons présentement, ne pourra pas être maintenu. Et du même coup, le niveau de vie des gens va diminuer, la protection sociale qu'ils connaissent va diminuer, et on va parler nécessairement aussi de l'insécurité sociale ou encore existentielle qui va paraître de plus en plus. Et ça va nécessairement affecter les attitudes des gens et les comportements des gens. Et là, on va parler de crise, de remise en question nécessairement du système dans lequel on est. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut dire à courte vue, on s'en va vers une période qui va être plus difficile, pas nécessairement chaotique, mais plus instable au cours des prochaines années, avec des réactions parfois peut-être un peu violentes de la part de groupes sociaux, de groupes de pression, qui ne voudront pas laisser aller les acquis, mais en même temps, nous n'aurons peut-être pas les ressources pour maintenir les acquis que la société s'est donnés à partir des années 60-70.
Mais vous parlez de réaction de certains groupes. Je pense aussi à des groupes plus vulnérables de la société qui sont les premières victimes. Bien avant que tous les autres aient des raisons de s'inquiéter. Je pense, dans un des textes que vous m'avez donné, Jean-Louis, à ces milliers de gens qui ont perdu leur travail. Évidemment, c'est une fraction de la population, mais plus ce nombre de gens va augmenter, plus le pourcentage de gens sensibles à des éléments de crise dans une société va augmenter aussi, puisqu'il n'y a pas que eux qui sont concernés, mais leur famille, leurs amis, comme si tout à coup, de plus en plus de gens se réveillent et se disent, mais non, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au royaume du Danemark, comme on dit.
Oui. Mais de fait, on constate que habituellement, les gens plus riches dans une société prennent conscience beaucoup plus tardivement de l'état de crise. Ce sont ceux de la base et qui, eux, souffrent d'un changement qui peut être significatif. Et par exemple, au niveau d'une protection sociale, s'ils sont affectés à ce niveau-là, ça va paraître, puis ils vont nécessairement le manifester. Ils ont une conscience vive de cette insécurité-là et de cette souffrance qu'apportent les changements. Des changements imposés par la conjoncture socio-économique plus large que celle du Québec, mais conjoncture internationale, par exemple. Mais si le moment de crise s'étend dans le temps, il va atteindre une portion de plus en plus grande de la population.
D'accord.
Et là, ça va nécessairement obliger à des prises de décisions fondamentales. Et c'est souvent à ce niveau-là aussi que vient se situer le rôle des églises. Par exemple, les églises qui prennent conscience qu'il y a une souffrance importante dans la société. Et c'est ce qu'on a vu dans le passé, à l'occasion des réveils religieux. Si l'on prend, par exemple, le réveil de 1840-1870 au Québec, quand on regarde, on dit que Mgr Bourget a un rôle de leader à l'intérieur, mais la conscience qu'il avait, c'est que la portion de Québécois en souffrance était prononcée, très prononcée. Donc, très grande insécurité au plan économique, au plan politique, là, l'univers était bloqué à cause de 37-38, la révolution 37-38. Oui. Donc, le rapport avec l'Angleterre était vraiment perturbé, en un sens, au plan politique. Et au plan social, il n'y avait pas suffisamment de travail et pas suffisamment de fermes pour accueillir le trop-plein des jeunes Québécois qui ont été obligés
d'aller aux États-Unis.
C'est ça, précisément.
Beaucoup. D'accord. Donc, ce que vous me dites, c'est que dans un contexte comme celui-là, l'Église, ou une portion du magistère de l'Église, plus précisément, s'est rendue solidaire d'une grande partie de la société qui était en désarroi ou dans des situations difficiles. Et c'est cette solidarité-là qui a conduit à un certain renouveau, réveil religieux.
En effet. En fait, on dit réveil religieux, mais c'est un réveil qui touche un peu, non seulement les orientations que l'Église a choisies, mais qui a un impact sur la population de l'époque. Donc, on illustre souvent ce phénomène-là. On disait la pauvreté, par exemple, dans les villes comme Québec et Montréal. Bon, la pauvreté chez les ouvriers était très grande, avec des périodes aussi de non-travail, de non-emploi pendant plusieurs mois de l'année. Ça arrivait régulièrement. Donc, la misère des familles d'ouvriers était quand même élevée. Et face à cette réalité, on voit l'évêque de Montréal, Mgr Bourget, avec le groupe qui l'entourait, les personnes ressources qui l'entouraient, prendre des décisions et en lien avec plusieurs communautés religieuses venues de France ou encore fondées ici, qui ont investi massivement dans les services sociaux, dans les hôpitaux, donc fonder des hôpitaux, ensuite des écoles, en vue aussi de sauver les Canadiens français, permettre aux Canadiens français de relever la tête et de prendre leur place à l'intérieur du Bas-Canada. Pour Mgr Bourget, il était fondamental que les Canadiens français puissent à la fois fréquenter les écoles, avoir accès aussi non seulement aux collèges classiques, mais aux universités. Et il a donc travaillé à ces différents niveaux-là pour qu'il y ait un tournant. Il a vraiment pris en compte la situation de l'époque, la situation de la population de l'époque. Et puis, on parle des Canadiens français, mais il n'a jamais oublié, lui, à Montréal, la présence des Irlandais qui étaient arrivés massivement à partir de 1830 et les années suivantes. Et on voit très bien qu'à ce moment-là, dans cette période de crise, il y avait un discours religieux nouveau, mais aussi, il a bâti un projet alternatif pour permettre, pas seulement la survie, mais le développement de la société canadienne-française.
OK, un projet alternatif qui n'est pas seulement ni d'abord un projet ecclésiastique, mais un projet de société.
C'est un projet de société. À l'époque, on voyait très bien, OK, il allait au-delà de la structure de l'Église. Et bien sûr, l'Église était là, elle avait un service à rendre à cette population-là,
voilà.
Hein, éclairée par l'Évangile.
Et ça a créé, vous diriez, un certain réveil religieux dans la population aussi?
En fait, il y a eu des changements profonds au niveau des attitudes des gens. Il faut dire qu'avant 1840, c'est vrai qu'il y a eu un rôle politique de jouer par l'Empire colonisateur. On avait restreint largement la liberté de l'Église catholique au Québec jusqu'autour des années 20. Mais il reste que le clergé était peu nombreux, les communautés religieuses peu nombreuses, et la pratique religieuse aussi était très faible. On imagine souvent que les francophones au Québec étaient des gens qui fréquentaient les églises. Ce n'était pas le cas.
Ah non.
À ce point que...
Mais c'est vrai qu'on imagine ça, Jean-Louis. Enfin, je dois être inculte au plan historique, mais mon Dieu qu'on apprend de l'histoire.
Parce que à des points, par exemple, faire ses Pâques à l'époque, c'était fondamental. Donc, c'était très sérieux de ne pas faire ses Pâques. Or, à l'église Notre-Dame à Montréal, donc c'était la grande église, on a constaté autour de 1830-35 qu'il y avait moins de 40% des gens, des adultes, et puis des jeunes qui pouvaient aller à la confesse et communier.
Donc, 60% des gens ne faisaient pas leur Pâques. Ne
faisaient pas leur Pâques.
OK. Et ça a changé avec l'espèce de tournant suscité par...
Progressif, c'est qu'avec les années 40, avec les projets à la fois qui touchaient le social, qui touchaient le culturel et surtout le monde de l'éducation, les gens sont mis à refaire confiance à l'Église, en quelque sorte, à cause de ces interventions, de ces initiatives. Et du même coup, le nombre de prêtres a augmenté, les communautés religieuses se sont multipliées, plusieurs sont venues d'Europe.
Les communautés religieuses ont dû augmenter parce que l'Église changeant, elle exerçait un certain attrait sur des jeunes qui ont souhaité s'y impliquer. Enfin, ce que cette leçon d'histoire-là, Jean-Louis, m'apprend... Ou nous rappelle, parce que c'est une chose qu'on devrait savoir, c'est que c'est lorsque l'Église, comme institution, se met au service d'une population souffrante, qu'elle est capable de se renouveler elle-même aussi de l'intérieur, finalement. Elle répond à une société qui a besoin de quelque chose de neuf ou d'un projet social différent. Mmh. Et répondant à ce besoin de neuf chez la population, elle trouve le moyen de faire du neuf pour elle-même.
Ah, oh oui, tout à fait. Donc, la solidarité avec la société souffrante a un impact en retour parce que là, elle prend, auprès des souffrants, elle a une crédibilité. Elle retrouve une crédibilité.
Parce qu'elle s'engage à leur service.
C'est ça. On l'a vu très bien avec le mouvement de libération, la théologie de la libération en Amérique latine. Il y a des églises qui ont retrouvé une crédibilité auprès des pauvres qu'elles avaient perdue. Et c'est grâce à cet investissement auprès des plus pauvres qu'elles ont à nouveau repris leur crédibilité. Elles ont aussi transformé leur discours et leur mode de présence auprès des plus pauvres.
Oui, et ça s'est fait par solidarité réelle. Bon, j'entends une petite voix d'avocat du diable derrière qui pourrait dire « Ben oui, ils ont renouvelé leur discours pour aller chercher les gens ». Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce que les gens ont des besoins réels auxquels l'Église décide de consacrer du temps et des énergies par compassion, on pourrait dire, et ce faisant...
Ouais. Au fond, des sociétés qui changent, qui passent par des phases de crise, et l'Église, nécessairement, si elle veut, faire vivre l'Évangile et vivre l'Évangile au sein de ces sociétés-là, elle doit nécessairement changer, s'adapter et répondre aux besoins qui sont là. Selon des types de sociétés, parfois, c'est des besoins avant tout d'ordre spirituel. Dans d'autres cas, c'est au niveau social. Mais très souvent, ça se tient.
Oui.
Ça se tient.
Et des problèmes d'identité collective, des choses comme ça. Ça me fait tellement de plaisir de retrouver encore une fois là, que l'histoire est pertinente pour comprendre le présent. Jean-Louis, à partir de ce que j'ai lu dans certains de vos textes, j'aimerais vous proposer une chanson C'est de Gilbert Bécaud. Ça vient d'un CD posthume édité en 2005 après sa mort. Et je trouve que cette chanson illustre assez bien les rapports, disons, un peu tordus qu'on peut entretenir avec le domaine du religieux lorsqu'on vit à fond une société d'hyperconsommation, un peu comme on l'évoquait au début de l'émission.
Je crois en toi, sainte société, tire les ficelles de mes jours, qui me donne à boire et à fumer, Notre-Dame du Bon Secours. Je crois en toi, sainte communauté, qui m'a comblé de tes cadeaux. Pour toi j'égrène mon chapelet. Je crois en toi la publicité, dans le bon choix, dans le panneau, en ton indispensabilité. Credo. Dieu de la banque et de la bourse, grand prêtre du culte de l'or, nous attendons de votre bouche les évangiles de l'or. Je crois en toi, Seigneur de l'art. Donne-moi ton cours quotidien, délivre-moi du désespoir de n'être pas américain. Je crois en toi, égalité, malgré quelques bavures encore. Mais tu ne seras plus discuté quand notre monde sera mort. Je crois en toi, le MLF, libérateur de nos compagnes, qui fait des hommes des Saint-Joseph et des Vierges Marie, des femmes. Je crois en toi, sondage IFOP, et en toi aussi la Sofresse. Je crois en vous les horoscopes, et dans le plein pouvoir des fesses. Je crois au saint patron protecteur, Saint Georges, Saint Jean, Saint Tika. Oui, je crois en vous de tout mon cœur. Je crois.
Jean-Louis Larochelle, ce que vous disiez à propos de Mgr Bourget me rappelle au 20e siècle la crise de l'amiante et les interventions de l'évêque de Montréal qui s'appelait Mgr Charbonneau. J'ai connu ça par la série là, qui a été faite Charbonneau et le chef avec Duplessis, n'est-ce pas, le comédien Jean Lapointe. Ou encore la série Chartrain et Simone. Hein. On voyait que les deux, Simone Monnet et Michel Chartrain, étaient impliqués dans la présence aux pauvres, entre autres, à Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, et que c'était au nom de leur foi. Bon, c'est toute l'action catholique en monde ouvrier de cette époque-là, peut-être. Est-ce que vous...
En fait, au niveau de l'histoire de l'Église au Québec, c'est une période fort intéressante, surtout celle de l'action catholique. On se rappelle que l'action catholique a commencé à prendre forme à Montréal en 1931, et dans les années qui ont suivi, on a vu se développer ce mouvement, à la fois du côté, bien sûr, de la jeunesse ouvrière catholique, mais aussi, et peut-être surtout en nombre, du côté de la jeunesse étudiante catholique. Et c'est là que se sont préparés, en quelque sorte, des acteurs importants de l'avenir du Québec, des gens qui étaient donc façonnés par une vision du rôle du laïc chrétien. C'est une nouvelle image du chrétien qui était en émergence à travers eux. Donc, c'est des hommes et des femmes qui se sont préparés à lutter pour plus de justice, un plus grand partage aussi entre les citoyens et citoyennes, et des hommes et des femmes qui ont développé des habiletés pour intervenir au plan social. Et en ce sens-là, certains historiens reconnaissent que cette période, surtout 1930-35 à 1960, c'est quasi un mini-réveil religieux, ou encore un réveil religieux mineur. On peut pas dire que l'Église est en crise, mais la conjoncture économique était telle, donc la grande crise économique de 1929 à 1939 avait une telle profondeur qu'elle a affecté une portion très importante de la population. Et donc, ces jeunes qui se sont engagés dans l'action catholique ont travaillé pour assurer l'avenir de cette société qui était menacée, mais ce n'était pas seulement au Québec, mais dans l'ensemble du monde occidental.
Alors, ça veut dire qu'on reconnaît là le même schéma à l'époque où Mgr Bourget a orienté l'Église vers une présence aux plus démunis de la société. Et dans les deux cas, donc, vous parlez d'un réveil religieux. Il y a vraiment un lien là entre une attitude de l'Église qui se met au service d'une portion de la société qui est en détresse pour l'aider essentiellement, et que ça revient vers elle-même en fruit de nouveaux chrétiens et d'un christianisme renouvelé.
En fait, ça a eu un impact au plan social, c'est bien clair, mais aussi au niveau de l'image que l'Église se donnait d'elle-même, du moins une portion de l'Église, parce que ce renouveau-là, on ne peut pas l'attribuer aux évêques ou encore aux autorités d'abord. C'était en cours de route qu'ils ont accepté que ce mouvement-là se développe, et puis il a eu une popularité qui a surpris beaucoup de gens. À ce point qu'il y a une période au début des années 50 où certains évêques trouvaient qu'il avait trop d'influence.
D'accord. Et en même temps, ceux qui ont été formés à l'intérieur de ces courants de pensée et d'intervention sont aussi la partie des chrétiens qui a engendré la Révolution tranquille, qui a une grande contribution aussi à la société.
Il y en a plusieurs qui ont été formés à l'intérieur du mouvement. On retient surtout le nom de Claude Ryan en particulier, celui de Jeanne Sauvé, mais il y en a plusieurs autres. Tout à l'heure, vous avez nommé Simone Chartrand, puis bien sûr son mari. Ce sont des gens qui étaient habités par cette vision qu'il fallait donner en fait à la société, une vision de plus grande justice, de partage des richesses aussi.
Et donc, vous reliez à cela un certain réveil religieux. Vous dites qu'une partie des responsables ou du leadership avait des réticences. Ça a dû changer parce que depuis, je dirais peut-être 25 ans, il y a plusieurs documents produits par l'épiscopat québécois et canadien qui s'intéressent beaucoup aux questions sociales, aux problèmes des gens défavorisés. Il y a eu beaucoup de documents officiels qui ont été écrits.
Et de fait, on constate que avec les années 70, les évêques ont produit des textes sur la situation sociale, ont pris position face à ces situations-là. Et celui qui a fait le plus réagir, c'est celui de 1981, qui avait insulté en quelque sorte les hommes politiques à ce point que certains hommes politiques avaient invité les évêques à retourner dans leur sacristie.
C'est vrai.
Parce que ils avaient une lecture un peu, je dis, marxisante de la réalité socio-économique canadienne.
Bon.
Puis, ils proposaient des réorientations qui étaient, pour une part,
contre le néolibéralisme pur et dur, là, le néolibéralisme sauvage, disons.
C'est vrai que c'est paru à l'intérieur d'une crise. Il y avait une crise passagère à l'époque.
Oui, oui.
Et puis, ils sont intervenus dans le cadre de cette crise-là, et ça a été très mal reçu. Il y a d'autres documents qui sont apparus sur l'immigration, etc., dans les années suivantes, et presque tous les ans. L'Assemblée des évêques du Québec, il y a toujours un texte au mois de mai, à l'occasion de la fête des travailleurs. Par ailleurs, selon les conjonctures, selon les problèmes soulevés, là aussi, il y a le souci de prendre position, puis de dire comment les chrétiens, chrétiennes doivent se situer.
Donc, ça ne concerne pas que les évêques comme individus et comme responsables, ça concerne aussi les chrétiens et les chrétiennes. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu une expression que j'ai vue dans vos textes, un imaginaire social et religieux, cette idée d'une proposition, d'un projet, ou en tout cas de quelque chose d'inspirant en termes de projet social qui est promu donc par des leaders, incluant l'Église, mais quelque chose qui mobilise les chrétiens, les chrétiennes et plein d'autres personnes. Est-ce que vous pourriez développer un peu?
En fait, là-dessus, on parle beaucoup dans la littérature sociologique de nouvel imaginaire social.
Oui.
Dans cette nouvelle imaginaire sociale, bien sûr, on tient compte des agents, qu'on dit des ordres culturels, et là-dedans se situe l'Église. Chose certaine, dans ton texte présent, on voit bien que les chrétiens ne sont pas les seuls, au contraire, ils sont devenus minoritaires. Les chrétiens vraiment motivés, habités par l'Évangile, par le feu de l'Évangile, sont minoritaires. Ça signifie donc qu'ils doivent collaborer avec d'autres acteurs sociaux, que ce soit des groupes, parfois des partis politiques, pour pousser, dans un sens ou l'autre, l'avenir, préparer l'avenir. Et donc, on parle dans ce sens-là de nouvel imaginaire. Mais pour avoir une efficacité, pour que l'Évangile puisse avoir une présence, comme le levain dans la pâte, à l'intérieur de la société, des institutions sociales, il faut, au plan stratégique, que les chrétiens aient le souci d'être présents là où se prennent des décisions, là où on prépare l'avenir.
Oui.
Si on n'a pas ce souci de présence, ce souci aussi d'être solidaire, surtout de ceux qui souffrent, quelle que soit la forme de souffrance,
oui.
Du même coup, l'Évangile ne peut pas donner une couleur particulière à la société. D'où la mission des chrétiens, finalement, de ceux qui sont habités par l'Évangile, de collaborer avec d'autres pour préparer l'avenir. Oui. Et un avenir différent de celui que nous connaissons, étant donné que nous sommes dans un monde en changement. On le voit très bien.
Oui, et peut-être pas en grosse crise, mais en tout cas dans un monde certainement où il y a une insécurité, une déstabilisation, même un taux de suicide qui augmente. Enfin, c'est signe qu'il y a déjà en tout cas une détresse et aussi un désenchantement certainement face aux institutions politiques. Bon, et un repli sur soi, vous nous avez parlé de l'individualisme, la culture du soi-même et de sa propre réalisation. Alors, par rapport à ça, vous nous dites, oui, on a besoin d'un projet dynamisant qui relance les gens et qui mobilise plein d'intervenants sociaux, y compris des chrétiens. Puis en même temps, vous faites le lien avec l'Évangile.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et là, un autre élément dont on n'avait pas besoin, je dirais, de parler explicitement autrefois, c'était la capacité des chrétiens de dire pourquoi ils s'engagent et qu'est-ce que dit leur foi. Autrement dit, il faut qu'ils témoignent ouvertement, explicitement de leur foi. Et là-dessus, on voit très bien une nouvelle exigence que nous n'entrevoyions pas autrefois, pas autant. On remettait ça aux curés, comme on disait.
Oui.
Les curés, eux, peuvent parler de religion, peuvent parler de leur foi, mais on ne demandera pas aux laïcs de présenter leur foi.
Oui, parce qu'en fait, tout le monde étant chrétien ou catholique, c'est pas nécessaire de savoir sans dire.
Justement.
Alors que maintenant, être croyant, c'est l'objet d'un choix. Être croyant, quelle que soit sa religion, d'ailleurs, en Europe et ici, maintenant, c'est l'objet d'un choix. Et donc, on doit, comment dit la deuxième épître de Pierre, soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance.
Votre espérance.
C'est ça. Pour vous, ce réveil religieux, s'il arrive, ce sera à la condition que le leadership religieux soit capable de mobiliser des chrétiens qui soient eux-mêmes solides, autonomes.
Ici, il y a toujours une ambiguïté. Quand on parle de leadership religieux qui devait prendre l'initiative, on sait que dans l'histoire, c'est rarement les autorités qui ont pris l'initiative. C'est arrivé, mais le plus souvent, ce ne sont pas les autorités, ce sont des mouvements parallèles.
Oui.
Et on les retrouve beaucoup, ces mouvements-là, à travers des figures de fondateurs et fondatrices de communautés. Quand on remonte au Moyen Âge, on voit par exemple la figure de Saint François.
Oui.
Ça a sûrement été difficile pour le pape de l'époque de l'accepter. Il devait y avoir une résistance assez forte. Dominique arrive quelques années plus tard, il fonde son ordre en 1215, et puis là aussi, ce qu'il proposait pour rencontrer les mouvements hérétiques de l'époque en Europe, bon, c'était une nouvelle façon de faire la pastorale, une nouvelle façon aussi de penser la formation du prêtre, et là-dessus, on peut imaginer qu'il y a eu des résistances.
Oui, et il proposait de cultiver l'intelligence de la foi.
Oui. Donc, on voit très bien que quand on parle de leadership à exercer par l'Église, il faut toujours tenir compte de cette marginalité dans l'Église et de gens qui, sur certains points, ont une vision de l'avenir qui va permettre, si elle est acceptée, d'aller au-delà du cul-de-sac dans lequel on semble s'engouffrer.
Oui. Vous me rappelez un de mes bons amis, analystes aussi de la société, qui disait toujours « Les grandes institutions sont sauvées par les gens qui vivent dans leur marge. » Et il parlait pas seulement de l'Église, hein, mais des syndicats, des grandes entreprises. Ce sont les marginaux qui restent dans ces institutions-là, mais qui sont en même temps un peu dans la marge, qui, dans les périodes de mutation profonde, font une grande contribution et que ces institutions-là continuent de durer. C'est un petit peu ce que vous nous dites, là.
Mm-hmm. Et ça implique aussi nécessairement un certain type de leadership.
Oui.
Au cours des 30 dernières années, on a catégorisé les modèles de leadership. On disait que dans les institutions qui vont bien, moyennement bien, ça prend un leadership bureaucratique. Il s'agit de faire fonctionner d'institutions qui offrent soit des biens, soit des services. Et puis, si elles fonctionnent bien, on n'a pas de raison de la remettre en question.
Mm-hmm.
Ça prend de bons gestionnaires.
Oui, et attentif à ce que ça continue de bien rouler. C'est pas péjoratif, là, le portrait que vous nous faites.
Du tout.
D'accord.
Mais dans des situations de crise, là, on a besoin de gens qui ont des idées nouvelles, donc de personnes ou de groupes innovateurs. Il faut donc que les autorités accepte de donner de la latitude à ces groupes ou encore à ces individus qui sont prêts non seulement à avoir des idées, mais à les expérimenter sur le terrain. Et quand on remonte dans l'histoire, on voit aussi que les tournants se prennent quand on donne de la place à ces gens-là. Donc, on parle à ce moment-là de leadership créatif ou créateur,
oui,
laissant la place à l'innovation.
D'accord. On ne s'attend pas donc à ce que ce soit les personnes en autorité qui aient toutes les nouvelles idées, qui soient les plus créatifs. C'est peut-être pas toujours leur rôle, mais qu'ils aient une sorte de sagesse pour détecter ceux qui ont cette créativité ou ceux qui manifestent cette énergie de changement et leur faire de la place.
Oui. Ne serait-ce qu'être capable d'écouter ce que les autres peuvent lire, comment ils lisent la situation et comment ils voient l'avenir. Et s'ils savent écouter, sur le nombre, il y en aura toujours qui diront « Oui, nous devons faire confiance. » Essayez au moins, parce que autrement c'est la mort. Dans l'histoire, par exemple, des communautés religieuses, on a souvent vu ça dans l'histoire. Certaines ne voulaient pas changer. Elles ont vécu le cycle d'un développement énorme au départ, mais le contexte social ayant changé, contexte culturel et politique, le charisme de départ ne s'exerce plus. Il aurait fallu que le charisme ait été reformulé ou repensé, et n'ayant pas été reformulé ou repensé, c'était la mort de l'institution.
Ouais.
De même dans l'Église, il faut qu'elle se resitue régulièrement face à un contexte dans lequel elle se trouve.
Le monde réel,
le monde réel
dans lequel on vit et dont on fait partie. Quand je vous entends parler comme ça, Jean-Louis Larochelle, je peux en tout cas certainement pas m'imaginer que le réveil religieux auquel vous pensez et que vous souhaitez soit le retour à une Église de chrétienté où tout le monde en fait partie parce que c'est comme ça et parce que c'est plus simple comme ça. Il n'y a pas de place dans ce que vous dites pour être chrétien comme suiveux, je dirais, même si le mot suiveux n'est pas du bon français. C'est autre chose qu'il nous faut alors.
Sûrement. Quand on regarde dans les sociétés occidentales actuelles et quand on écoute les discours des théologiens, mais d'un certain nombre d'évêques, on voit bien que le modèle qui nous a été légué par l'histoire ne fonctionne plus dans le contexte moderne actuel.
Voilà.
Donc, il faut repenser la présence de l'Église, même les modèles de rassemblement, et puis la façon d'éduquer la foi. Il faut tout repenser.
Mm-hmm.
Et donc, c'est une période où il y a de la place pour une grande créativité.
Oui.
Et puis aussi des risques. Il faut prendre des risques.
Et une incertitude dans tout ça, bien sûr. Ça me rappelle tout à fait ce que vous aviez vous-même signé avec d'autres, le rapport d'analyse de la vie dans les communautés chrétiennes au Québec en 1992. Le rapport publié pour les évêques, mais travaillé par les gens de l'Institut pastoral, qui s'appelait « Risquer l'avenir », ce qui était un très beau titre. C'est ça que ça proposait, finalement, construire une communauté chrétienne fondée sur des adultes qui choisissent d'être des croyants en Jésus-Christ, qui se tournent vers la société. Ça n'avait pas eu, comment dire, ça n'avait pas rencontré un engouement extraordinaire, ce rapport-là, si je me rappelle, sauf chez des gens comme moi, là, disons.
Non, il faut l'avouer que Risquer l'avenir a été accueilli avec réticence parce qu'on disait qu'on n'en était pas là. Pour la description de ce qui se passait dans les paroisses, l'enquête avait été menée au niveau des paroisses, paroisses urbaines, paroisses de banlieue, oui, paroisses rurales.
Dans les années 1980.
Je dirais 89 à 91.
OK.
Pour ce qui est de la description, la plupart étaient d'accord, ce que les, à la fois plusieurs évêques et même les théologiens refusaient les pistes, les suggestions qui avaient été proposées. Et l'une des premières, c'est d'investir massivement sur l'éducation de la foi des adultes.
Oui.
Et puis, compter beaucoup là-dedans sur les groupes restreints pour que les gens apprennent à dire leur foi aujourd'hui et découvrent aussi une forme de solidarité ou de communauté chrétienne, plus restreinte, davantage conviviale et porteuse. Ce qu'on ne rencontre pas dans une grande paroisse, où on va, par exemple, à quelques centaines,
oui,
assister à une messe.
Ça reste anonyme.
Oui. Donc, il y avait derrière la proposition cette volonté de toucher à la fois au communautaire, mais aussi à l'approfondissement de la foi.
Oui.
Parce qu'on disait, dans le contexte actuel pluraliste, où on trouve non seulement différentes traditions chrétiennes, mais différentes traditions religieuses de différentes origines, il faut que le chrétien puisse être capable de dire, voici ce que je choisis,
oui,
et voici pourquoi je choisis. Ça va impliquer maintenant comme type d'engagement, et pour moi, et pour ceux et celles qui partagent ma foi.
Si je vous comprends bien, à l'époque, l'ensemble des intervenants ecclésiaux ont pu être d'accord avec le diagnostic que vous posiez en 91, mais réticent aux politiques que vous suggériez comme étant la réponse à ce diagnostic. Mais en même temps, ça ressemble pas mal, ce que vous proposiez là, dont vous venez de parler, ça ressemble pas mal aux politiques actuelles que les diocèses essaient de mettre en œuvre. Autrement dit, ils y sont venus 20 ans plus tard, c'est ça?
En fait, on peut dire que le tournant des synodes, le synode de Montréal, qui a commencé à se préparer autour de 1994-95, et le synode de Québec qui avait commencé à être organisé un peu plus tôt. Donc, dans le prolongement de ces synodes-là, l'Assemblée des évêques du Québec était intervenue avec son texte annoncé l'Évangile, hein, dans la culture actuelle, oui, donc en 1999. Là, on voyait vraiment un tournant. Maintenant, on va au-devant de gens qui ont pris leur distance par rapport à l'Église. Là-dedans, il y a des gens qui sont devenus incroyants, mais l'Église ne peut plus simplement accueillir des gens de l'extérieur, chez elle. Il faut penser autrement.
Oui.
Et penser autrement, ça veut donc dire que, bien souvent, ce sont des laïcs qui, dans leur milieu de travail, leur milieu de vie, vont pouvoir témoigner de leur foi et dire pourquoi ils sont des croyants et ce que cela amène comme type d'engagement dans la société.
Je comprends, oui. Je pense, c'est peut-être marginal dans la réflexion là qu'on fait, mais je pense aux milliers de laïcs actuellement impliqués de manière bénévole dans le dossier de la catéchèse des enfants. Bon, indépendamment du résultat premier qui est recherché, c'est-à-dire la catéchèse des enfants, je suis très admirative, moi, de voir à quel point il y a là des forces vives venues de partout dont on n'aurait même pas soupçonné l'existence à la fin des années 90. Et voilà que l'Église ayant besoin de ces gens-là, les trouve. On aurait pu penser qu'il y avait personne qui serait intéressé. Mm-hmm. Et donc, il y a des gens pour qui l'Évangile est parlant. Il y a des gens qui sont prêts à s'engager. Est-ce que pour vous, ça peut être un signe qu'il y a un réveil religieux possible?
En fait, c'est une très heureuse surprise. La remarque que l'on fait, on a encore peu de personnes dans la trentaine, dans la quarantaine qui s'engagent auprès des jeunes, à moins que ce soit des parents.
Oui,
c'est
il y en
parents.
A.
Il y en a, il y en
ah,
a.
Oui.
Et ça, il faut s'en réjouir. Et puis, il faudra suivre de près ce qui se passe présentement. Parce qu'on dépasse la simple observation, il faut aller du côté de, je dirais, lire avec la foi, les yeux de la foi. Dieu travaille, Dieu est en mission dans notre monde. Il travaille le cœur des humains, et il travaille le cœur d'hommes et de femmes qui, tranquillement, se convertissent à l'Évangile.
Oui. Hein?
Les gens font un premier pas. Au départ, la motivation première est peut-être leurs enfants, et puis, progressivement, ils vont plus loin et ils sont prêts à mettre de leurs énergies et de leur vie pour que la société du Québec soit encore marquée par l'Évangile dans les prochaines décennies.
Que l'Évangile continue à être le levain dans la pâte, pourrait-on dire.
Mm-hmm.
Alors, au fond, ce qu'il nous reste à souhaiter, c'est que ces énergies-là qui sont un peu à gauche, à droite, bon, il n'y a pas que les catéchètes bénévoles, il y a plein de gens dans des mouvements. Au fond, c'est comment rassembler, peut-être que les initiatives à prendre seraient de l'ordre du réseautage ou en vue d'une sorte de projet de rêve, comment vous avez appelé ça? Pas rêve, imaginaire.
Bon, un imaginaire. Un nouvel imaginaire, oui.
Oui, comment mettre en réseau des gens qui ont du tonus, un peu, au plan de la foi et avec d'autres?
En fait, ça va être important. Mettre en réseau pour donner une conscience que, d'une part, on a une même direction et, par ailleurs, donner confiance en l'avenir. En fait, on ne fait pas que s'éteindre. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Et le gros problème que nous avons, c'est l'impatience. Nous disons à courte vue, nous avons l'impression que l'Église, depuis 20 ans, a fait peu de choses, alors que non seulement il y a des décisions, des idées nouvelles, des pratiques nouvelles proposées, des politiques nouvelles, mais aussi, maintenant, on voit émerger un nouveau type de chrétien, capable de rendre compte de sa foi. Mais nous sommes tellement impatients parce que la situation de l'Église nous fait mal. Nous voudrions que tout se règle dans l'espace de 5 ans, alors qu'au niveau de l'histoire, même les réveils religieux réussis, c'est au moins 30 ans pour vraiment prendre un tournant sérieux.
Ben, vous me consolez. Moi, j'ai l'impression que j'attends ça depuis que j'ai 21 ans et que je suis rentré en pastoral scolaire. J'en ai 63. C'est vrai que ça a quand même un peu bougé, mais pas assez vite à mon goût, c'est certain. Pourtant, Jean-Louis, il y a de l'espérance dans ce que vous apportez et ce qui me paraît en tout cas particulièrement nouveau dans votre réflexion, c'est ce lien extrêmement étroit que vous faites entre le renouveau de l'Église elle-même et sa collaboration, sa contribution à une société qui a besoin qu'on réponde à sa détresse. Et ça, ce lien-là très étroit...
Et puis, au 19e siècle, on pensait beaucoup à la détresse, je dirais, physique, ou encore c'est économique. Alors que maintenant, dans le contexte actuel, c'est plutôt une détresse d'ordre spirituel. On va parler de soif spirituelle, mais en même temps, on va dire que les gens sont trop superficiels, qu'ils ne se donnent pas le temps de réfléchir, qu'ils n'ont pas de vie intérieure, qu'ils manquent d'intériorité. Et ça les amène à, non pas à faire des choix, mais à suivre le courant, suivre des modes. Et puis, ce qu'on leur propose de la télévision, ils ne font que suivre. Ils sont motivés par la publicité, au fond, entraînés par la publicité.
Je ne sais pas si c'est une majorité de nos concitoyens qui sont comme ça. Je serais curieuse de voir s'il y avait des sondages là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une pente facile, là. Et pourtant, il y a quand même des quêtes. Bon, la semaine dernière, avec Céline Niel, on parlait de l'intérêt des gens pour les récits de vie et la trajectoire spirituelle et comment ce que les gens cherchent lorsqu'ils s'engagent là-dedans dans un tel processus, c'est justement de répondre à un besoin de s'intérioriser, de réfléchir sur leur vie, d'en retrouver le sens profond. Donc, vous voyez, Jean-Louis, c'est peut-être pas le temps de désespérer.
En fait, là-dessus, la soif spirituelle, Réginald Bibi, dans ses études sur la soif spirituelle au Canada, remarque qu'il y a au moins 70% des gens, même un peu plus, qui portent des questions ultimes. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui va se produire après ma mort? Pourquoi la souffrance? Donc, les gens se portent la question. Sauf qu'il y a une tendance observée depuis 20 à 30 ans, c'est que ceux qui se posent la question se font moins nombreux. La majorité encore se pose la question, mais il reste qu'il y a des gens qui ne se posent plus la question. Ça, c'est quelque chose qui est un peu dérangeant.
Oui.
Mais c'est une observation, là, en passant.
Bon. Eh bien, espérons que cette statistique-là, l'avenir la fera mentir, je dirais, et l'avenir prochain. Jean-Louis Larochelle, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette réflexion sur la crise actuelle de la société et l'implication de l'Église dans cette crise et le travail que l'Église doit faire vers son propre renouveau. Merci aussi d'espérer que l'avenir reste ouvert. Parce que c'est comme ça qu'on peut se mobiliser, je crois, si on pense que ça a vraiment un avenir. Jean-Louis Larochelle, merci beaucoup.
Bienvenue.
C'est Francine Robert au microphone. Je vous invite à consulter le site Internet de l'Institut de Pastoral pour des suggestions de lecture en lien avec le thème de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission de la série « Croire d'hier à demain », produite pour Radio Ville-Marie par l'équipe de l'Institut de Pastoral des Dominicains dans le cadre du 50e anniversaire de sa fondation. Et je vous espère la semaine prochaine. Bonne journée sur les ondes de Radio Ville-Marie et à bientôt.